Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. L'ambassade des États-Unis à Bagdad attaquée par des milliers d'Irakiens pour protester contre des frappes américaines en Irak. Une action orchestrée par l'Iran selon Donald Trump. Éclairage dans un instant de Christian Chéneau, nous irons aussi à Washington. Retour sur l'incroyable évasion de Carlos Ghosn. Omar Waman nous dira ce que l'on sait des circonstances de la fuite de l'ancien PDG de Renault-Nissan qui a trouvé refuge au Liban. À quelques heures des vœux présidentiels, une quinzaine de députés La République En Marche appellent au dialogue sur la réforme des retraites. Ils critiquent l'âge pivot prévu dans le projet. Il est à leurs yeux injuste socialement. Et puis, la grève dans les transports impacte les dons du sang. Reportage de Dounia Mayedine. Une foule en colère s'est rassemblée ce matin devant l'ambassade des États-Unis à Bagdad. Et après l'incendie d'une guérite et des jets de pierre, une partie du personnel de l'ambassade a dû être évacuée. Cette manifestation violente qui a rassemblé des milliers de personnes faisait suite aux raids aériens américains qui ont tué 25 combattants des brigades du Hezbollah dimanche dans l'ouest de l'Irak. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir Aurélie.
Les manifestants étaient des partisans du Hashd, une coalition de paramilitaires dominée par des factions chiites pro-iraniennes.
Vous entendez, ce ne sont pas des manifestants lambda, mais des membres ou des proches des milices pro-iraniennes qui scandent des slogans hostiles à l'Amérique, qualifiés de grand Satan. La scène s'est déroulée ce matin sur les bords du Tigre, dans la zone verte de Bagdad. Cette foule de militants a réussi à franchir les barrages de ce quartier pourtant ultra sécurisé de la capitale irakienne. Les forces de l'ordre irakiennes ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser ces manifestants hostiles à la présence militaire américaine dans le pays. Les responsables des milices chiites ont fait état de 20 blessés. Ces incidents placent les autorités irakiennes dans une situation très inconfortable parce que Bagdad est à la fois l'allié de Washington et de son voisin iranien. Le pouvoir de Bagdad est donc pris entre deux feux à un moment où des semaines de protestations populaires l'ont profondément ébranlé et affaibli. Au final, les autorités irakiennes redoutent de devenir le champ de bataille du bras de fer que se livrent américains et iraniens et ne peuvent pas choisir leur camp. Pour autant, Bagdad va devoir rassurer Washington pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Et en même temps, il lui faudra apaiser l'Iran qui aujourd'hui active ses réseaux locaux pour harceler les Américains sur le sol irakien. Autant dire un casse-tête diplomatique et sécuritaire.
Christian Chéneau, et les images de la prise d'assaut de l'ambassade américaine ont fait la une de tous les journaux télévisés du matin aux États-Unis. Le président Donald Trump accusant Téhéran d'être derrière cette attaque. On retrouve notre correspondant à Washington, Grégory Phillips.
Pour Donald Trump, et il l'écrit sur Twitter, c'est bien l'Iran qui a orchestré l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad. Le président des États-Unis justifie aussi les frappes aériennes de dimanche. Téhéran a tué la semaine passée un sous-traitant américain en Irak et a fait de nombreux blessés. Nous avons répondu avec force et nous le ferons toujours. Parallèlement, le patron de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, s'est entretenu tout à l'heure avec les autorités irakiennes pour leur demander de protéger cette ambassade ainsi que les ressortissants américains. Sinon, nous le ferons nous-mêmes. Les images de cette ambassade mise à sac réveillent ici de bien mauvais souvenirs. L'attaque du consulat américain de Benghazi en Libye en 2012, durant laquelle l'ambassadeur Stevens avait été tué, ou plus ancien, il y a 40 ans, la prise d'otage à l'ambassade américaine à Téhéran. L'influent sénateur républicain Lindsey Graham, un proche du président, prévient « Donald Trump ne laissera pas se dérouler un autre Benghazi ».
Et le Pentagone a décidé d'envoyer des renforts pour protéger l'ambassade américaine à Bagdad. Le Japon est sous le choc après la fuite de Carlos Ghosn. Comment l'ancien patron de Renault et de Nissan a-t-il pu quitter le pays sans être repéré et se rendre sans encombre au Liban? C'est encore un mystère. Alors que sait-on au juste ce soir, Omar Waman?
Libéré sous caution au mois d'avril dernier, Carlos Ghosn était depuis assigné à résidence à Tokyo, où l'homme d'affaires a échappé à la surveillance de ses gardes avant de rejoindre un petit aéroport de province où l'attendait un jet privé qui a atterri dans la nuit de dimanche à lundi à Beyrouth, au Liban, dont il est un ressortissant. Les services de sécurité libanais ont assuré que l'ex-PDG de Renault Nissan était entré légalement. Il a la nationalité libanaise, mais également française et brésilienne. Par conséquent, en l'absence d'accord d'extradition entre Beyrouth et Tokyo, Carlos Ghosn a peu de chances d'être renvoyé au Japon. Cette fuite rocambolesque a été rendue possible grâce à son épouse Carole Ghosn, qui dispose d'importants moyens financiers et de solides appuis au Liban, mais également en Turquie, où son époux a fait escale avant d'arriver à Beyrouth, où il est désormais libre et en famille.
Cette fuite de Carlos Ghosn est une claque pour la justice japonaise. Vous le disiez, Omar, faute de traité entre le Liban et le Japon, il sera impossible d'obtenir son extradition pour le juger au Japon. Mais les autorités japonaises ne sont peut-être pas si mécontentes de ce départ. Voilà ce que nous explique le correspondant de RFI à Tokyo, Frédéric Charles.
Carlos Ghosn gâche le nouvel an des Japonais, un moment empreint de religiosité où l'on vient dans les temples saluer les divinités et faire un vœu. Du Liban, où il s'est réfugié après avoir fui le Japon dans des circonstances mystérieuses, Carlos Ghosn reprend son j'accuse contre le système judiciaire japonais, où prévaut, dit-il, la présomption de culpabilité, où la discrimination est généralisée, où les droits de l'homme sont bafoués. Cette fuite est une victoire pour Carlos Ghosn et une humiliation pour la justice japonaise, laisse-t-on entendre sur les réseaux sociaux japonais. Il est libre, il échappe à 4 inculpations pour corruption. Son procès aurait duré des années et il risquait de mourir en prison. Un politicien japonais juge problématique qu'un pays laisse ainsi faire un départ illégal. Mais ça arrange peut-être les autorités japonaises. Son procès durant les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 aurait été une source d'embarras. Carlos Ghosn devient maintenant un fugitif international. Pour les autorités japonaises, c'est la preuve de sa culpabilité.
Frédéric Charles, à Tokyo. Les Israéliens l'attendaient depuis les années 70. Le premier train direct entre Jérusalem et Tel Aviv est enfin sur les rails. Le projet a été lancé en 2001 par Ariel Sharon, alors Premier ministre. L'inauguration de la ligne à grande vitesse était prévue en 2008, mais les travaux ont pris du retard. Il y a aussi eu des pressions d'associations et des difficultés liées à la géographie locale. L'année dernière, une première partie de la ligne a été inaugurée, mais le train s'arrêtait aux trois quarts du chemin à l'aéroport Ben-Gourion. Désormais, il relie les deux plus grandes villes du pays en 32 minutes et pour un peu plus de 5 euros. Une aubaine pour les nombreux Israéliens qui parcourent régulièrement, voire quotidiennement, les 70 kilomètres séparant ces deux villes où se concentre l'essentiel de l'activité économique et politique. Reportage d'Alice Froussard à la gare Itzhak Navon de Jérusalem.
Depuis Jérusalem, pour aller à Tel Aviv, il faut un peu moins d'une heure en voiture, presque le double aux heures de pointe et désormais 32 minutes en train. Alors si la file d'attente est longue devant le guichet de la gare, tous savent qu'ils gagnent du temps, comme Barak, 32 ans, qui fait le trajet quotidiennement.
Pour moi, c'est une plus-value, c'est très 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 rapide. Là, on gagne un maximum de temps, c'est vrai que ça aide énormément de gens. Et ça permet aussi au pays de grandir.
Grandir, mais aussi changer des habitudes. Assis à l'avant du wagon, casque sur la tête, Yujan regarde défiler le paysage. Il le précise, il a une voiture, mais il l'a laissée au garage. Aujourd'hui, c'est en train qu'il rejoint Tel Aviv.
Si je dois aller dans le centre pour quelques heures, je pense que je vais privilégier le train. C'est juste plus simple parce que la gare est au milieu de la ville. Vous pouvez vous déplacer où vous voulez. Vous n'avez pas à trouver ni à payer de place de parking. C'est à la fois moins cher et plus pratique.
Plus de changements obligatoires à l'aéroport Ben-Gourion et une ligne 100% électrique à grande vitesse, même si son allure de pointe, 160 km/h, ne permet pas de l'appeler ainsi. L'essentiel, c'est que le train fonctionne, précise Eran Ben-David. Il est chef de la gare Itzhak Navon de Jérusalem et a vu affluer les passagers.
Il y a 2 semaines, avant la mise sur rail, nous comptions 53 000 personnes par semaine. Mais quand nous avons ouvert la ligne directe avec Tel Aviv en une semaine, nous avons doublé la fréquentation. 93 000 personnes en une semaine, c'est dingue.
It's amazing.
Car Jérusalem et Tel Aviv, les deux plus grandes villes du pays, étaient reliées jusqu'alors par une vieille ligne de chemin de fer sinueuse à travers les collines posée par des Français en 1892. Au fil des siècles, le rail était resté le même, alors pour cette nouvelle ligne, il a fallu creuser 5 tunnels, construire 9 ponts, dépenser 1,8 milliard d'euros et attendre 11 ans après la date de lancement initiale, des délais justifiés selon le chef de gare.
In Jerusalem, we built the line.
À Jérusalem, on a construit la ligne, l'ancienne contournée les montagnes. On a dû construire des ponts, des tunnels, alors ça prend du temps et de l'argent. Si on se réfère au premier jour des travaux, ça n'a pris que 9 ans. Mais on a eu des problèmes avec des associations écologistes, par exemple, qui étaient contre le projet, car le pied d'un des ponts était dans une réserve naturelle. On a dû s'arrêter 3 ans, le temps que la cour se prononce, puis on a repris les travaux. Sans ces 3 ans, ça ne fait que 6 ans. Et pour cette ligne de chemin de fer, ce n'est pas énorme.
6 ans, mais sans compter les multiples dysfonctionnements électriques, les chantiers à l'arrêt pendant Shabbat, les problèmes de budget ou le retrait de certains soutiens internationaux, car 6 km de rails traversent la Cisjordanie occupée. Et si aujourd'hui le train est opérationnel, il faudra encore des travaux pour le relier à d'autres villes israéliennes ou d'autres gares de Tel Aviv.
Alice Froussard à Jérusalem pour France Culture. L'aile gauche de La République En Marche réclame une alternative à l'âge pivot. À quelques heures des vœux aux Français d'Emmanuel Macron, une quinzaine de députés LREM signent une tribune dans laquelle ils dénoncent l'âge pivot prévu dans le projet de réforme des retraites. Ils le jugent injuste socialement et considèrent qu'à travers cette mesure, on s'éloigne de la promesse de campagne. Claire Pitola, députée LREM des Bouches-du-Rhône, fait partie des signataires.
Cet âge pivot, il n'était pas prévu. On ne l'a pas porté pendant les présidentielles. Et donc, on a beaucoup de personnes qui se tournent vers nous et qui disent « nous ne comprenons plus ». Notamment les marcheurs, ce n'est pas la réforme qu'ils ont portée. Donc, c'est important pour nous de relayer ce message-là. Cet âge pivot, aujourd'hui, il contraint le dialogue social. Donc, nous voulons proposer une alternative qui permette de répondre à l'engagement qu'on s'était fixé lors des présidentielles, c'est-à-dire un régime universel, mais qui puisse prendre en compte les parcours de chacun. C'est-à-dire un âge de départ qui soit modulable en fonction des parcours de vie de chacun. Il y a eu effectivement différents propos dans la presse qui pouvaient laisser penser qu'il y avait un assouplissement de cet âge pivot qui était prévu. Nous, on veut affirmer que c'est ce qu'on attend. Un âge pour tous, ce n'est pas possible. Ça ne ferait pas une réforme juste. Et ça conduirait à, finalement, revenir vers des régimes spéciaux, à faire une réforme avec cet âge strict. Et donc, il faudrait faire des cas par cas pour des régimes. Et on ne souhaite pas ça. On souhaite en finir avec les régimes spéciaux parce qu'aujourd'hui, le système n'est pas juste. Et on souhaite avoir un système universel qui puisse tenir compte des parcours de chacun. On n'est pas égaux face à la pénibilité de nos métiers. On n'est pas égaux face à la formation, face aux aléas de carrière. Tout ça, il faut qu'on puisse en tenir compte dans cette réforme. Et ça ne peut pas se faire par un âge pivot qui soit le même pour tous.
Claire Pitola, députée La République En Marche des Bouches-du-Rhône, répondait à Rosalie Lafarge. Le président a-t-il entendu cet appel? On le saura à 20h. Vous pourrez d'ailleurs suivre son allocution en direct sur France Culture. La retransmission des vœux d'Emmanuel Macron sera suivie par des analyses et commentaires, une émission spéciale animée par Stanislas Vazak. Toujours mobilisés contre la réforme des retraites, des musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Paris ont organisé un concert sauvage sur les marches de l'Opéra Bastille. En grève depuis le 5 décembre, 63 représentations ont déjà été annulées. Les musiciens dénoncent une parodie de négociations et ils se sont produits dans la rue dans un esprit de partage et de solidarité entre les générations et entre les grévistes, Cécile de Kervas-Doué.
Sur l'air du Toréador du Carmen de Bizet, une cinquantaine de musiciens sur les 170 que compte l'orchestre est venu dire non à la clause du grand-père.
Nous n'acceptons pas de porter la honte d'une génération qui en sacrifierait une autre.
Remettre en cause la caisse de retraite spécifique de l'Opéra de Paris qui remonte à Louis XIV ferait perdre 25% de retraite aux musiciens avec toutes les aides spécifiques liées aux accidents du travail. Des aides qui leur sont indispensables, explique Christophe Grindel, délégué FO et qui joue du hautbois dans l'orchestre.
Parler de privilèges, moi je voudrais bien savoir quels sont les privilèges. Il est évident qu'à l'Opéra, nous produisons à peu près 360 spectacles par an. Les gens sont sur scène 180 soirs par an, plus les répétitions qui ont lieu le soir. On a des amplitudes de travail qui vont de 9h30 le matin à minuit, avec des spectacles d'une durée de 3 ou 4 heures. Nous travaillons le dimanche sans aucune compensation. Nous expliquer après que nous sommes privilégiés, je trouve ça quand même un petit peu osé, quoi.
Ce régime de retraite sert également à compenser des salaires bien inférieurs au privé et à l'international, surtout chez les choristes et les danseurs. Ces derniers partent ainsi à 42 ans avec une enveloppe de 1200 à 1500 euros par mois. Et c'est d'ailleurs ce qui permet d'attirer les meilleurs, explique ce danseur.
J'ai de l'arthrose aux chevilles, je me suis fait opérer du genou. J'ai deux hernies lombaires, j'ai 37 ans bientôt. J'essaye d'arriver de maintenir un résultat, mais ça me prend beaucoup plus de temps. Toujours avec le souci de, malheureusement, de garder cette qualité-là. Et c'est ça qui nous maintient.
Le régime de retraite de l'Opéra de Paris serait donc un gage d'excellence, a écrit le directeur musical de l'Opéra de Paris, Philippe Jordan, au ministère de la Culture. Un moyen de justifier son financement public à hauteur de 14 millions d'euros par an. Mais c'est aussi un choix de société, s'enflamme Michel, une professeure de lettres et d'histoire en grève, venue soutenir les musiciens.
On est ensemble, en fait. Une société où on soigne mal les gens, où les jeunes ont une éducation au rabais. Mais c'est quoi cette société alors qu'il n'y a pas de tsunami qui a détruit la France?
Depuis le 5 décembre, la grève a coûté 12,5 millions d'euros à l'Opéra. Une perte qui risque de s'alourdir encore, disent les grévistes, tant que le gouvernement refuse de négocier réellement.
Cécile de Kervès-Doué, place de la Bastille à Paris avec Gilles Gallinaro à la technique. La grève se poursuit dans les transports publics. La SNCF prévoit un TGV sur trois demain. À la RATP, 8 lignes de métro resteront fermées. 6 lignes ne fonctionneront que partiellement. Et sur les RER, le trafic restera fortement perturbé. Ces perturbations compliquent le quotidien des usagers et préoccupent l'établissement français du sang. La période des fêtes est toujours synonyme de baisse des dons de sang. Mais les manifestations et les grèves aggrave le phénomène d'Ounia Mayedine.
Bonjour madame.
Bonjour.
Oui, ça.
Véronique a 64 ans, elle donne régulièrement son sang dans cet établissement du 9e arrondissement de Paris. Entre mouvements de grève et les fêtes de fin d'année, certains donneurs évitent de se déplacer.
Mon travail est à 2 minutes d'ici et j'habite à une demi-heure de mon travail à pied. Donc la grève ne me perturbe pas trop. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis on est le 31, on peut imaginer quand même que beaucoup de gens sont en vacances.
Depuis début décembre, l'Île-de-France enregistre 350 dons en moins par jour, sans pour autant arriver à un seuil critique, explique le docteur François Charpentier.
La situation s'est un peu améliorée, clairement, mais il y a encore du chemin qui reste à faire parce qu'on sait que actuellement on collecte moins que nos besoins, qu'au mois de janvier se surajoutent des phénomènes épidémiques comme grippe et gastro-entérite. Donc on ne peut pas faire beaucoup de réserves, on n'a pas beaucoup de temps pour les faire, et quand on n'arrive pas à les faire en prévision d'une période difficile qui vient, comme c'était le cas là au mois de décembre, eh bien on est inquiet. L'inquiétude ne porte pas sur les besoins du moment, du jour. L'inquiétude porte sur les 2 ou 3 ou 4 semaines qui suivent, et c'était situation au mois de décembre.
Reste un problème de fond, c'est celui du manque de donneurs en général, souligne Michel Fourniol, responsable des prélèvements de l'établissement français du sang pour le nord de l'Île-de-France.
L'établissement français du sang est toujours à la recherche de nouveaux donneurs. Actuellement, 3% de la population française donne. Et cette proportion chute encore plus sur l'Île-de-France parce que Paris intramuros, on est de l'ordre de 1,5%. Si on arrivait seulement à gagner 1% de plus, donc nous deviendrons totalement autosuffisants, ce qui aiderait beaucoup effectivement tous les malades qui ont besoin en permanence de ces produits.
Dans les territoires d'outre-mer, les besoins sont encore plus flagrants, comme chaque année en cette période de fortes perturbations climatiques, cyclones et ouragans qui entraînent également la fermeture de nombreux aéroports et des problèmes d'acheminement.
Dounia Mayedine. Uber France porte plainte contre 2 de ses chauffeurs. Une plainte pour des actes d'intimidation et de vandalisme en marge d'une mobilisation des chauffeurs VTC. La plateforme accuse ses chauffeurs de menaces, d'injures et de dégradation de locaux. Mais les chauffeurs contestent et ils continuent de réclamer de meilleures conditions de travail, Damien Mestre.
Tout a commencé à la mi-novembre quand des centaines de chauffeurs mécontents décident de bloquer des centres appartenant à Uber. Les revendications sont multiples, le niveau de commission qu'ils jugent trop élevé, la présence de faux chauffeurs qui utiliseraient des cartes VTC contrefaites, ou bien encore les suspensions temporaires de compte quand un chauffeur annule trop régulièrement ses courses. Les actions se multiplient à Aubervilliers notamment, ou bien encore devant le siège à Paris. Mais si les chauffeurs reconnaissent un climat parfois tendu, l'entreprise elle dénonce des faits d'intimidation, de menaces, de violences et décide finalement de porter plainte contre au moins 2 de ses chauffeurs. Parmi eux, Brahim Ben Ali, qui a coordonné ses actions, lui parle d'une vengeance personnelle.
Alors les agressions, il faut qu'ils les prouvent, puisque moi à l'heure actuelle, les seules manifestations que j'ai faites, c'était des opérations pacifiques. Quand on nous a demandé de partir, on partait. Il n'y a pas eu de confrontation avec les forces de l'ordre. Je ne vois pas pourquoi ils parlent d'actes de violence à l'heure actuelle. Ça m'a surpris dans le sens où, de la part d'Uber, d'en arriver là. En fait, c'est une technique qui est très simple. Il faut susciter la peur. Donc, comment on suscite la peur? On coupe la tête du leader. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Mais ça ne marchera pas. C'est vraiment une grande colère. Et ça ne fait que commencer.
De son côté, la plateforme assure que ces plaintes ne visent en aucun cas à empêcher le droit d'exprimer du mécontentement à son égard.
Le chef Marc Vera est débouté. Le célèbre cuisinier au chapeau noir avait saisi la justice pour savoir pourquoi le guide Michelin avait privé l'un de ses restaurants de sa 3e étoile. Il considérait que le guide rouge avait fait une erreur et demandait 1 euro symbolique de réparation. Mais pour le tribunal de grande instance de Nanterre, le chef et sa société ne produisent aucune pièce permettant de démontrer la réalité du préjudice. Le tribunal qui rappelle la liberté d'expression des inspecteurs du guide. Comment va commencer l'année 2020 ? Sous les nuages, nous dit Météo France, avec des brouillards givrants le matin sur le Grand Est, un temps plus doux mais humide dans l'Ouest, et du soleil tout de même au voisinage des Pyrénées et sur le Sud-Est. Le matin, dégelé du Nord et du Nord-Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ailleurs, les minimales iront de 0 à 9 degrés. L'après-midi, il fera 2 à 17 degrés du Nord au Sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.